France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
On parle aujourd'hui des femmes qui travaillent en mer. En vérité, dans un monde idéal, on n'aurait rien à dire. On chercherait des personnages, des problèmes, des situations, et on ne trouverait rien. Ce serait un non-sujet. Il n'y aurait rien de spécifique, vous m'avez comprise, à être une femme et à travailler sur des bateaux de pêche, des plateformes, des expéditions. Et on évoquerait ces boulots en général. Et pourtant, Fabienne Lhomonnier a trouvé deux histoires assez exemplaires des difficultés que les femmes ont encore à s'imposer dans les métiers de la marine. On se souviendra d'ailleurs que jusqu'en 1963, un certain décret Colbert interdisait aux femmes de monter à bord des navires de pêche, de commerce et de guerre. Il fut abrogé à la suite d'une bataille administrative livrée par la première femme marin de France qui s'appelait Sonia de Borodeschi. Et il faudra encore attendre 2014 pour que les femmes soient autorisées à monter à bord des sous-marins. Évidemment, les pays scandinaves sont très en avance sur la question. En Norvège, par exemple, la part des femmes dans le secteur maritime représente environ 21%. Et sur la plateforme pétrolière Ekofisk, les femmes sont autour de 10% de l'effectif total. Tout de suite, voici donc deux récits de femmes en mer par Fabienne Lhomonnier.
Je m'appelle Thérèse, je vis en Bretagne et ça fait longtemps que je travaille en mer. Je suis marin. J'ai travaillé sur une période d'environ 10 ans pour une boîte française, compagnie maritime parapétrolière, qui est affrétée par les exploitants de pétrole pour faire la logistique autour de plateformes. Souvent, il y a un propriétaire principal, il y a eu Total, Perenco, Eni, les Italiens, Chevron, les Américains. Donc, des plateformes pétrolières offshore qui sont sur la côte ouest de l'Afrique, essentiellement Gabon, Congo, Angola, voilà. Et il y a toute une flottille de petits bateaux qui servent à emmener des travailleurs depuis la terre jusqu'à leur plateforme de travail et les ramener le soir. En fait, c'est comme un petit bus dans un archipel de bâtiments, quoi. Et moi, je le pilote. C'est des petits bateaux assez légers, en aluminium, qui vont vite, très manœuvrables, avec des jets, surmotorisés. Et sur ces bateaux, on est deux, quoi. Il y a un matelot et un patron mécanicien, donc qui est en charge de piloter le bateau et de s'occuper de la machine. Et je connais, incluant moi, quatre femmes qui ont fait ça.
Bon, pour ce qui est du quotidien, bah voilà, là le bateau est au coffre, tranquillement accroché à une bouée. J'attends que mes types aient fini leurs travaux pour les ramener à bon port. Et voilà, je suis au milieu de la mer, avec des plateformes tout autour.
Dans le camp de Malongo, en Angola, il y avait plusieurs milliers de personnes. Il y avait quelques femmes, soit des chefs, des ingénieurs ou des managers de haut niveau, soit des femmes de ménage. Et entre les deux, c'était que des hommes, donc c'était des milliers d'hommes. Et sur les plateformes, on était 200 et j'étais la seule. La première fois que j'ai postulé, j'ai reçu un mail automatique qui disait « Monsieur, votre candidature n'a pas été retenue ». Voilà. C'était pas envisageable, effectivement, et c'est ce que tout le monde me disait, c'est pas possible. Je me suis dit, bon, je vais mettre toutes les chances de mon côté, je vais retourner à l'école et je vais passer le brevet suivant, parce que je savais qu'il était de plus en plus demandé par les affréteurs. Et quand j'étais à l'école, j'étais la seule fille dans la classe. Mmh. On a eu l'intervention d'un ancien capitaine d'armement de la boîte où je voulais postuler. Et donc, je lui demandais des conseils. Il y a eu un petit silence, et là, le gars, il a éclaté de rire. Il me dit, bah non, c'est pas un métier de femme, quoi. C'est pas possible. Et je lui dis, oui, mais si quand même... Il me dit, non, c'est pas possible. En rigolant. Et en essayant de faire rigoler le reste de la classe, quoi. Qui rigolait pas tellement, parce qu'ils commençaient à me connaître, et ça les a pas trop fait marrer. Et d'autres qui, bah, après, quand on allait boire des coups, ou qu'on discutait, qui se lâchaient un peu, qui me disaient, mais impossible, mais jamais, parce qu'on pourra pas te loger, quoi. On est que des mecs... on nous bourre dans des cabines où on est quatre, il n'y a pas d'intimité, ils mettront jamais une femme là-dedans, c'est pas possible, quoi. C'est, t'as pas ta place, et voilà. J'ai renvoyé une candidature, et puis je me suis pointée à un salon du travail en mer qui se passait à Brest, là, pas loin de chez moi, et je suis allée directement avec mon CV voir une femme qui gérait le stand, et je lui dis, voilà, j'ai candidaté auprès de chez vous, on m'a dit que c'était, mon profil n'était pas intéressant, je voudrais juste que vous m'expliquiez et qu'on regarde mon CV ensemble. Et je lui dis, bon, en fait, moi, je travaillais dans la plongée, peut-être c'est ça qui ne vous a pas indiqué à quel point on passe notre temps à piloter, à réparer des bateaux quand on travaille dans la plongée. Il faut emmener les gens, il faut être précis, il faut récupérer des gens dans l'eau, faire plein de manœuvres. Donc, c'est pas déconnant de... être marin à l'issue, quoi. Enfin, parce qu'on est marin, en fait, même si c'est pas notre statut ni l'intitulé de notre travail, quoi. Ah oui, je comprends pas pourquoi on vous a pas pris, effectivement, non, vu comme ça. Et puis, quelques semaines après, ils m'ont appelé, quoi. Ils m'ont dit, ben, c'est bon. Je sais pas pourquoi ils m'ont embauché, au final. Je pense que c'est peut-être parce que j'étais vraiment, vraiment, vraiment motivée ou qu'ils ont fait une expérience. Quand je suis arrivée la première fois, j'étais un ovni parce que les collègues se demandaient ce que je faisais là. En plus, à l'époque, j'avais des cheveux longs, blonds. En fait, je dépareillais complètement. Et après, de toute façon, ça commence toujours par un moment de formation pour connaître les machines, les bateaux, les procédures. Donc, quelques jours où on prend en main le bateau avec un formateur. Et le formateur, il était congolais. Très rapidement, il m'a dit, je suis très contente que tu sois là, t'es la première femme pilote, et moi j'étais le premier pilote noir. Et je vais t'expliquer comment ça se passe. Et ça c'était génial, quoi. C'est-à-dire qu'il me reprenait même des fois sur des éléments. Si là tu vois, quand t'es concentré, tu te pinces la lèvre, et ça veut dire que t'es pas à l'aise. Alors arrête de te pincer la lèvre, parce que sinon, il y a quelqu'un qui va en profiter pour te faire une réflexion, et ça va... Tout doit être absolument nickel, ton journal de bord, ça doit être nickel, avec pas une tache, pas une faute. Tu te laves les mains à chaque fois que tu le remplis, il n'est pas question que, tu vois, en gros, il ne doit pas y avoir la moindre entrée à la critique. On était collègues de... ouais, collègues en milieu hostile, blanc, mâle. Et la première fois que j'ai passé un appel à la VHF, en appelant depuis le bateau, c'était quand j'étais en formation, c'était à Pointe-Noire, personne n'a répondu. Il y a eu comme un silence de surprise. Quand le formateur a pris la radio avec sa voix d'homme et qu'il a appelé, ça a répondu tout de suite. Et puis après, tout le monde s'est habitué. Très souvent, même quand j'appelais des collègues, ou ils disaient « Oh là là, quelle belle voix !» Et après, ils se foutaient d'eux entre eux, ils disaient « Ah, c'est ça, belle voix, belle voix !» Enfin bon, du coup, après, ça devenait... Il y en a même qui m'appelaient « Belle voix !» après pour rigoler, quoi. Mais pour les hommes qui sont sur le champ et qui n'entendent que des voix d'hommes et toujours la même chose, bah ça leur rappelait la vie, quoi, la diversité de la vie, d'une certaine manière. Un truc complètement uniforme avec qu'un type de personne, c'est juste pas la vie, quoi. Et donc c'est chiant.
Bah, il est 18h ici, le soleil se couche. Voilà, j'ai pris mon quart là, à 17h30. Je suis là jusqu'à demain midi, parce que je repasse deux jours la semaine prochaine. Voilà, ambiance du soir, ça commence à être un peu la saison sèche, donc c'est brumeux, ça devient blanc, mais au moins il n'y a plus d'orage. Voilà, tranquille.
Les bateaux travaillent 24 heures sur 24 et on est en quart de 12 heures. Donc en fait, il y a un moment dans la journée, au bout de 12 heures, où on met le nez du bateau dans le boat landing. Le collègue embarque et nous on débarque et le bateau repart avec son nouvel équipage pour 12 heures. Et 12 heures après, rebelote. Donc du coup, certaines cabines de deux, je pouvais la partager avec un homme que je voyais jamais, puisque il était sur le bateau quand j'étais dans la cabine et réciproquement. Et à un moment, j'aurais dû partager une cabine à terre avec un collègue, donc pareil, que j'aurais jamais vu puisque on bossait sur le même bateau. Et ça a été refusé comme absolument impossible, parce que il y avait une possibilité que le collègue voit mes habits. Et que ça le rende fou, voilà. Alors, faut voir la gueule des habits, c'est des bleus de travail, enfin, c'est pas le genre d'endroit non plus où on met des guêpières et des dentelles, enfin. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on m'a beaucoup prévu que j'allais me faire violer. En fait, là, typiquement, vu que c'est un monde sans femmes, on m'a souvent dit, mais fais attention, parce que sur une plateforme, les mecs vont pas pouvoir résister, et enfin voilà, ça va être dangereux pour toi et tout. Et en fait, il s'est rien passé, je pense pas qu'il aura pu se passer quoi que ce soit, parce que c'est des milieux super surveillés. Mais ça fait partie des fermetures à ce genre de boulot, que ce soit dans la marine marchande ou sur des plateformes, enfin tous ces lieux qui sont essentiellement masculins. On dit aussi aux femmes qu'on ne veut pas les embaucher, soit parce qu'on ne peut pas les loger, soit parce qu'elles vont se faire violer. Le champ de Malongo, en Angola, il y a des dizaines de plateformes. Une sur trois a une torchère. Régulièrement, on participe avec nos petits bateaux à l'allumage des torchères, c'est-à-dire qu'on s'approche d'une torchère, le gaz sort et il y a un opérateur à l'avant avec un genre de pétarde qui provoque l'explosion dans la torchère pour qu'après elle brûle. Et c'est marrant, ça peut vraiment faire une lumière très forte et même de la chaleur. Donc d'un coup, frouf, il y a le jour qui apparaît sur la zone, quoi. Et la nuit, parfois quand il y a des gros afflux de gaz, ça va éclairer la mer sur plusieurs milles d'une espèce de lumière complètement artificielle, un petit peu bleutée, mais comme une lune beaucoup plus forte, quoi. C'est un côté surréaliste, magnifique et formidable au sens beau et effrayant. Ça fait des grands traits sur l'eau quand on fait route. D'ailleurs, c'est pratique parce qu'on peut les suivre un peu pour éviter les pirogues. C'est mieux que la nuit noire complète. On se sent quand même super petit. Les inventions pour sortir le pétrole de la terre, tout le génie humain qu'on trouve sur un champ pétrolier, fait partie de la fascination qu'on peut avoir pour ça. Enfin, une fascination qui peut être un peu obscure, mais ouais, c'est les pures créations de l'homme. C'est peut-être dommage que ça serve à ça, mais c'est fascinant. La dernière marée que j'ai faite, j'ai discuté avec un matelot, pareil, qu'on discutait de migration, de rêve d'Europe, des relations entre l'Afrique et l'Europe. Et à un moment, il s'arrête et il me dit « Oui, mais le problème de l'Afrique, c'est l'homme noir. L'homme noir ne veut pas travailler. » Et je le regarde, je fais « Mais tu es noir ?» Alors il rigole, il me dit « Oui, enfin bon, moi c'est pas pareil, mais c'est quand même le problème de l'Afrique. » Pendant combien de temps quelqu'un se voit dans les yeux de son dominant et comment on s'en sort, quoi. Une fois qu'on est essentialisé, rabaissé, de génération en génération, alors c'est valable pour les colonisés, pour les femmes, pour tous les dominés en fait, pendant combien de temps on croit au mythe que le dominant a mis dans notre cerveau, quoi.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Anne-Claire, j'ai 38 ans. De formation, je suis ingénieure océanographe avec une spécialité des milieux polaires. Depuis pas mal d'années, je me suis spécialisée dans la vulgarisation et la transmission de la science dans les milieux polaires ou des cultures polaires. Ce que j'aime, c'est d'être en mer pour pouvoir être au contact en fait, des milieux polaires et de la population et d'aller à leur rencontre. Donc ce que j'ai choisi, c'est à chaque fois d'être embarquée sur des bateaux, sur des voiliers, je préfère, mais j'ai également été sur d'autres bateaux, des bateaux plus océanaux de recherche. Et là où j'ai passé le plus de temps sur un peu des bateaux, c'est avec un voilier qui s'appelle toujours Atka, qui a fait des hivernages et des expéditions scientifiques et artistiques en Arctique. Un hiver, le mois de février-mars, quand il commence à y avoir un peu de lumière dans le nord-ouest du Groenland, près de la baie de Disco, dans un village qui s'appelle Oratsut, qui veut dire cormoran en groenlandais. Je suis sur donc le bateau Atka qui est en hivernage depuis plusieurs mois, c'est-à-dire pris dans la glace. Donc, dans cette période-là, donc, il commence à avoir un petit peu de lumière, beaucoup de glace et des couleurs typiquement pastel, rosé au niveau du ciel et une mer foncée et qui dénote pas mal avec les icebergs qui sont blanc-bleus. Il n'y a pas d'arbres là-bas, donc beaucoup de montagnes qui sont essentiellement blanches avec de la glace et parsemées de couleurs noires. En dessous de la glace, il y a de la roche qui est très noire. Pas beaucoup de monde, très peu de monde. Donc là, je suis au Groenland depuis 4 mois. C'est la deuxième fois que je suis au Groenland. Et j'ai un ami groenlandais qui s'appelle Nuka qui me propose de venir chasser avec lui le phoque. Ils sont tous un peu chasseurs-pêcheurs dans le village. C'est un village de une trentaine d'âmes l'hiver. Nuka, ça fait depuis 4 mois que je le connais. Mais je le vois quasiment quotidiennement. C'est un personnage pas très grand. Les Groenlandais sont pas grands, la plupart. Typé asiatique. Un visage assez rond, très souriant quand on lui parle. Et puis, et là, Nuka, il est habillé, il est tout le temps habillé pareil, avec une combinaison complète bleue et des bottes noires au bout orange. Et puis, un bonnet qui est vraiment qui permet de prendre bien les oreilles et des gants. Donc, je suis dans le voilier qui est pris dans la glace et je guette l'arrivée de son canot, sa petite barque en fait, hein, avec moteur. Et il arrive et fuit, il fait monter son bateau sur la glace. Et là, il sort de son bateau, toc, toc, tac. On démarre par prendre un petit café. Il parle pas beaucoup, c'est pas un personnage qui parle beaucoup. Il me fait comprendre, parce qu'on baragouine le Groenlandais, mais pas tant, que maintenant, on y va. Donc je lui dis cool, on dit thorac, et c'est parti. Pas de gilet de sauvetage, rien, on y va. Sur le bateau, il y a deux fusils. Et il a pris des bouées aussi, des bouées flottantes, et puis voilà. Son bateau est nickel, il y a un balai aussi. Et voilà, c'est tout. Je m'attends à partir pour peut-être... une heure et demie, oh, je m'étais dit peut-être 2 heures quand même, mais bon. Donc on part, on quitte la baie d'Ora Hatsout, donc du village, on passe par une passe. Je vois les enfants dans le village, et ensuite on va vers le large. Rapidement, on voit plus rien, plus aucune civilisation. Et donc on est parmi de la glace, des petits morceaux de banquise. Il y a des icebergs qui se baladent. Les montagnes autour de nous sont pas très hautes, des sortes de collines qui nous entourent. Mais qui nous encercle quand même. Et quand on sort, du coup, il y a cette sensation d'horizon très lointain, parsemé de glace, avec derrière nous, on laisse le village, ses habitants et le bateau. Je me sens bien, je me sens vraiment bien, je me sens privilégiée d'être là. On n'a pas tout le temps comme ça l'opportunité d'être sur un bateau avec quelqu'un qui connaît cet endroit aussi depuis toujours et qui va nous emmener dans son monde un petit peu. Je sais qu'on va pas beaucoup discuter, que ça va être tranquille, mais je me doute bien qu'à un moment donné il va y avoir un coup de fusil, donc ça va peut-être être un peu moins tranquille, mais voilà, en tout cas l'ambiance est vraiment très détendue, et voilà. Donc je le regarde, il a l'air d'être tout tranquille avec son bateau, il navigue entre les glaces. Il siffle, voilà, il chantonne, parce qu'il est Nuka, il aime bien chantonner. Et puis, à un moment donné, il ralentit le bateau, il prépare ses fusils. J'ai fait comprendre que je peux lui faire un coup de main, mais il me fait comprendre que je peux pas lui filer de coup de main. Et il regarde, il observe l'horizon, les bouts de glace, tout ça. Donc moi, j'observais essentiellement la glace, je me dis juste, bah, c'est joli, je sais même pas quoi regarder. Et puis, il accélère d'un coup, donc je me dis qu'il a dû voir quelque chose. Donc moi, évidemment, avec mes yeux, j'ai rien vu. Et là, il me dit « Pouissi, Pouissi ». Donc « Pouissi », ça veut dire « phoque » en inuit. On voit effectivement une dizaine de phoques en train de sauter un peu à la surface de l'eau. Mais c'est vraiment dur à voir, parce que les phoques du Groenland, ils sont assez marron foncé. La mer, elle est assez noire. C'est même pas glace, elle est vraiment c'est gris-noir. Il s'approche, mais il est quand même assez loin encore. Et là, il prend son fusil tout en laissant le bateau continuer à avancer au moteur assez vite. Donc là, je me dis, mais quelle dextérité. Donc il a les jambes bien écartées. Le bateau, il va quand même assez pleine balle. Et il ramasse son fusil. Et là, il ralentit d'un coup. Donc en fait, il faut quand même s'accrocher sur le bateau parce que il ralentit, il accélère. Donc moi, je suis à la limite de passer à la flotte. Et là, bam, il tire un coup. Je tombe avec le fusil à l'intérieur de la barque. Mais vraiment, il va pleine balle sur le phoque. parce que le but, c'est d'attraper le phoque avant que le phoque coule, quoi. Parce que là, sinon, t'as fait tout ça pour rien. Donc là, il arrive à l'endroit où il y a le phoque qui est en train encore un petit peu de se débattre alors qu'il vient de se prendre une bastos dans la tête. Donc il arrête le moteur, il se jette à moitié dans l'eau, attrape le phoque pour, en fait, rapidement mettre un bout. Le phoque, du coup, il est accroché à une bouée qui est accrochée pour le moment au bateau. Il y a du sang un peu partout dans le bateau parce qu'évidemment, il s'est débattu, tout ça et tout. Et ça a giclé. Et là, tranquille, Nuka, donc il recifle, il prend son balai brosse, il nettoie tout nickel, le seau, il nettoie tout. Donc, moi, je suis assez habituée dans le milieu du bateau, quand on commence à cliner quelque chose, c'est qu'on arrive sur une fin. Ça fait quand même déjà au moins une heure et demie qu'on est en chasse. Hein. Et là, je me dis, bon, eh ben, c'est bien, trop contente, on a chassé, on va rentrer, quoi. Parce que c'est quand même intense, quoi. Pas du tout. Et là, on a laissé la bouée, on repart. Donc je me dis, tiens, c'est bizarre, le village, il est de l'autre côté. Enfin, je pense, quoi. Il y a peut-être un truc que je connais pas, il veut peut-être me montrer quelque chose. Non, non, il est reparti en chasse. Rebelote, quoi. Donc là, on refait une autre chasse. Il arrive à en avoir un deuxième. Donc là, de nouveau, j'ai cru que j'allais perdre Nuka dans l'eau, mais pas du tout. Il attrape le phoque, tac, il remet une bouée, tout ça. Là, je me dis, c'est bon. Là, je lui dis, je fais une blague comme ça. Ah, ma Mac, il va me dire, bah, ça va être bon, quoi, tu vois. Ça va être bon à manger. On a assez à manger, quoi. Donc, on essaye de se comprendre, mais clairement, il n'a pas dû me comprendre. Parce qu'on est reparti de plus belle. Là, il fait nuit. Hein. Il commence à faire nuit parce que c'est en hiver. Donc, concrètement, on n'avait quand même pas beaucoup de jours. J'ai pas trop froid parce que l'adrénaline est assez forte. C'est juste que c'est particulier quand tu navigues comme ça sans perspective réelle. Avec les Groenlandais, c'est toujours, il y a ce fameux immacha qui veut dire, bah, on va voir. Là, je commence à capter que c'est possible que je sois partie, je sais pas moi, que je revienne demain ou après-demain. Il était incapable de me dire, on va rentrer après avoir fait tant de phoques. Je pouvais pas te dire si j'allais dormir dans le bateau. Ma raison a dit, bah, ce qui va nous arrêter, c'est qu'il va bien falloir ramener les phoques. Donc on va bien, à un moment donné, on va avoir trop de phoques à ramener. Parce que ça, par contre, je savais qu'on laisse pas un phoque, on ramène notre chasse, quoi. Donc, mais il fait nuit, mais ça le dérange pas parce qu'il y a une lune et on est quasiment à la pleine lune. Donc une pleine lune en milieu polaire, c'est comme un soleil, quoi. Ça éclaire énormément. Il y avait un moment donné, pour le troisième phoque, donc on va vers le phoque, il a tiré, il arrive, il essaie d'attraper le phoque, il veut que j'attrape le phoque avec lui, il est en train de couper du coup la nageoire pour y passer le bout. Là, à ce moment-là, le bout, il passe pas très bien, je sais pas trop quoi, enfin, en tout cas, il me demande d'attraper le phoque, et donc je me vois en train de sauter. Je crois qu'il a eu vraiment peur quand même que je passe à la bagne à ce moment-là, parce que je vois pour sauter et d'attraper le phoque, donc lui, Nuka, il essaye de mettre du coup le bout, il me voit en train de prendre le gros phoque qui est immense, hein, en plus sous l'eau. J'essaye de monter, mais n'importe quoi, j'essaye de monter le phoque sur la barque, donc impossible. Dans l'eau, t'as l'impression que les choses sont légères, mais en fait, dès que donc je commence à vouloir lever le phoque, donc j'ai quand même du sang sur moi, tout ça et tout à ce moment-là, du coup. Et Nuka qui rigole, en fait, qui rigole derrière, moi en train d'essayer de me débattre avec un phoque qui est immense, qui me dit non, mais arrête, tiens-le juste, parce qu'il avait peur que le phoque, en fait, le lâche de la prise, tu vois, de ses mains, et du coup, qui coule. Donc voilà, donc très drôle finalement ce moment-là. Puis j'avais pas peur, je pense, tu fais ton truc, et puis je pense que derrière moi, je me disais, mais si je tombe à l'eau, de toute manière, ça va, il y a Nuka. Donc on en a quand même chassé 4. Là, je comprends que c'est la fin parce qu'en fait, le dernier, il met pas de bouée. Là, il l'accroche au bateau. Et là, on repart. Donc là, je sais bien qu'on peut pas partir pleine balle avec le phoque. Parce que, donc là, du coup, on y va pop, 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 on y va longtemps. Mais on est hyper loin. Je me dis, oh là là, comment on va faire pour retrouver les autres bouées? Je reconnais rien du tout. Les icebergs, ils ont bougé, les machins. Je me dis, mais comment on va faire? Il n'y a pas de point GPS. Nous, en tant que personne sur l'eau, on est tellement sur ça. Mais là, Nuka, il se balade entre les icebergs et il retrouve les bouées. Incroyable. Moi, je le vois serein, pas de panique, tout va bien, pas fatigué. Alors, je ne sais pas comment, moi, je suis fatiguée, je suis rincée. J'ai le cœur un petit peu quand même, le palpitant qui... ouais, c'était quand même quelque chose. Ça nous a pris 6 heures, hein, donc ça nous prend toute la journée. Donc, on récupère nos phoques. Là, il est trop content. Il est trop content, il veut que je touche les phoques et tout. Il prend des photos de moi avec les phoques, avec le fusil. Donc, pour lui, j'ai chassé avec lui. Donc, on rentre au village. Il y a tous les chiens, t'entends tous les chiens du village. Donc là, t'as un bruit de dingue. Avant, j'étais en mer, tout ça et tout. Pimpette de bruit, sauf le moteur quand il faut y aller. Là, t'arrives dans le village, il y a les phoques. Les chiens, ça crie dans tous les sens. Ils sont tous à la chaîne, au collier. Donc il y a une sacrée ambiance. Tout le monde me parle en groenlandais pour me dire que c'est super, qu'il faut fêter ça. Donc au café, parce qu'ils ne boivent pas d'alcool dans le village, là. On sort les quatre phoques. Les phoques vont essentiellement permettre de nourrir les chiens, les meutes. Les chiens de traîneau. Et après aussi, on fait des soupes et tout. Mais c'est pas la viande la plus, la meilleure, en fait, pour les Groenlandais. Après, il y a le narval, tout ça et tout. Et là, il me dit, maintenant, faut ouvrir le phoque, tout ça. Donc là, il le pose sur la glace. Et là, faut l'ouvrir. Donc il me demande de l'ouvrir. Je dis, mais là, je suis tellement fatiguée et tout. Là, c'est sûr, je vais tourner de l'œil. C'est pas possible. Tu vois. Alors pourtant, je suis pas vraiment, je le sens, ça me dérange pas. Mais là, j'étais tellement fatiguée. Donc on ouvre. Et après, il me fait manger du foie. Là, je fais ok, donc je savais que j'allais avoir ça, donc, mais pas de problème en fait. C'est chaud, c'est plein de sang, c'est plein d'être sang. C'est pas bon, c'est pas mauvais, hein, c'est juste que c'est un peu déroutant. Voilà, en cas, vu que tous les autres le faisaient, ça m'a pas paru bizarre. Puis c'est bien fait, hein, ils le font, c'est comme si tu prenais des sashimi. Hein, y a du sang, mais ils te le nettoient, ils te le donnent comme ça. Et après, il va falloir enlever la graisse, donc on m'a filé le houlou. Donc c'est vraiment le couteau on appelle ça le couteau des femmes, mais c'est le couteau pour pouvoir enlever la graisse. C'est hyper dur, il faut avoir un coup de main. Mais voilà, j'ai été hyper contente d'avoir eu ce moment avec Nouka, non pas par rapport à chasser, mais je pense pour déjà découvrir son monde et ce côté d'être bien avec quelqu'un que je connais pas vraiment, dans un milieu très hostile quand même, et loin en tout cas du bateau dans lequel qui était notre maison, notre refuge, loin des gens avec qui je peux discuter, s'il y a un souci, tout ça, mais de me sentir bien. C'était vraiment une très belle expérience. Si belle expérience que notre fils, on l'a appelé Nouka. Donc c'est un personnage qui a compté dans cette découverte de la culture inuite, quoi.
C'était Des femmes en mer, un reportage de Fabienne Lemonnier réalisé par Éric Lancien. Merci à Anne-Claire, Émilie, Anouka ainsi qu'à Thérèse et Jérôme. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Et notre stagiaire, c'est Luce Mourant.